Sono Anna Ciampini, il nome del mio na nascita. Je suis née à Viry-Châtillon, en banlieue parisienne, et je suis partie en Italie, j'avais 9 mois, et je suis revenue, j'avais 10 ans. Parce que mes parents ont immigré plusieurs fois. Mon père et ma mère étaient italiens tous les deux. Mon père était venu en France pour travailler dans les carrières dans la région parisienne, avec les frères de maman. Mais tout seul, que des hommes. À un moment donné, ils en ont eu marre d'être tout seuls, ils ont fait venir les femmes. Et en 41, puisque je suis de 40, un soir, papa est revenu et il a dit, on se retourne en Italie. Alors, maman, on était 12, hein. Je suis la 12e. On m'a dit, ah bon, comme ça, d'un seul coup. Et j'avais mon frère aîné qui était commis boucher, donc il est resté chez son patron, et ma sœur qui était en train de se marier, qui est restée en France, elle travaillait chez une comtesse comme femme de ménage, donc elle est restée en France. Mais sinon, voilà, on est tous partis. Et puis il y en a deux qui étaient morts entre un frère et une sœur, donc à 18 et 20 mois, de la bronchopulmonie. Maintenant, on a les antibiotiques, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, on est partis donc en Italie, les 8, papa et maman, ça faisait 10.
Dans quel contexte il a voulu repartir?
À cause de Mussolini, enfin de tout ça. On lui disait que c'était mieux d'aller en Italie. Enfin, à l'époque, Mussolini, il n'était pas encore. Voilà, c'était. Et puis malheureusement, il n'aurait jamais dû y aller parce que je l'ai perdu. Mon père a été déporté par une dénonciation de l'usine en 1943. Il est parvenu, il est mort à Mauthausen, en Autriche. Voilà, donc maman nous a élevés toute seule. Une femme très très forte et admirable, parce que je sais pas comment elle faisait, mais elle y est arrivée à nous élever.
Une dénonciation, est-ce que tu peux réexpliquer le contexte et du
Alors,
coup?
mon papa travaillait dans une usine métallurgique
Oui.
à Legnano, c'est à quelques kilomètres de Milan, où on habitait. Et dans cette usine, il y avait beaucoup de communistes. Mon papa n'a jamais fait de politique, d'après ce que m'a dit maman. Moi, je retransmets que ce que j'ai reçu. Donc, il s'occupait de rien. Mais à un moment donné, on a demandé que dans cette usine, on fabrique des armes. Et là, il s'est opposé, avec d'autres, à fabriquer des armes dans cette usine. Bon, il y a eu peut-être cette première chose. Et la deuxième chose qui l'a vraiment mis dans la route d'être pris, c'est qu'il était, comme maintenant, responsable du comité, comment on appelait ça, comité d'entreprise. Donc, à l'époque, il distribuait des pneus pour que les gens qui étaient loin pouvaient venir travailler. Donc, il faisait des réunions pour qu'il y ait des demandes. Et puis, un des chefs plus haut que lui, et lui a dit, ben, moi, j'en voudrais bien pour ma fille. Et mon père, elle lui a répondu, mais ta fille, elle ne travaille pas à l'usine, donc j'ai pas, on n'a pas à lui donner des pneus. Eh ben, ça, tu le paieras. Donc, moi, j'ai retenu que cette parole de maman, et je pense que ça, tu le payeras. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, officiellement, ils ont été déportés comme politiques, mais mon père n'a jamais fait de politique. Il y a lui, et puis je ne sais pas combien d'ouvriers de l'usine, hein, qui sont jamais revenus. Hein. Voilà. Donc, ça s'est passé en 43, et il est mort le 9 avril 45. Enfin, d'après les documents qu'on a reçus.
Est-ce que tu peux décrire là où tu as grandi, enfin les paysages de ton enfance?
Alors, moi, les paysages de mon enfance, Legnano, c'est une grande ville, comme. Je dirais pas comme Valence, peut-être comme Crest. Il y avait beaucoup d'industries à l'époque, comme partout, ça a fermé. L'usine de papa, il y a toujours les murs, mais elle n'existe plus. Enfin, il n'y a plus d'activité. Il y avait beaucoup de filatures. Mes sœurs travaillaient dans les filatures. Mon frère travaillait aussi avec mon père. Bon, j'allais à l'école privée. Donc, on habitait, comme je disais hier à mon mari, une cour, et enfin des immeubles où il y avait une cour intérieure. Bon, ça existe encore dans les vieilles villes. Donc, on jouait, on sortait pas, hein, de là. On jouait tous, les gamins, dans cette cour. Là, on était un certain nombre. J'avais une fragilité de santé très, très forte. Quand papa était déporté, j'étais à l'hôpital avec la diphtérie. Donc, je me rappelle pas de papa, rien du tout. J'avais 3 ans, je me rappelle pas. Je me rappelle parce que maman, j'ai posé la question à maman. Je me rappelle d'un monsieur qui me prenait sur ses genoux et qui me donnait de l'ail à manger. Parce qu'à l'époque, quand on avait des oxures, on nous donnait de l'ail à manger, on nous mettait un collier d'ail. Alors l'ail, moi, je l'ai détesté pendant des années. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je me rappelle de mon père. Et j'étais donc, je rentrais d'un hôpital, j'en sortais, j'ai une fragilité vraiment de santé. J'étais très chétive quand je vois les photos de quand j'étais petite. Ma sœur avait, comme elle disait, j'ai honte de te sortir parce qu'on dirait qu'on ne te nourrit pas. Mais voilà. Et quand je suis arrivée en France, tout est parti. J'ai une scolarité presque normale, difficile parce que, bon, à l'époque, on nous ménageait pas. Salle macaroni va dans ton pays, j'ai entendu ça dans les cours de récréation pendant des années. Et j'avais mes nièces qui étaient. Parce j'ai une sœur aînée, avec mes nièces, on a 5 ans avec la fille, et avec mon neveu, on a 18 mois. Donc, qui étaient là à l'école, qui disaient: Mais laissez ma tante tranquille. Et j'ai très vite appris le français parce que je suis arrivée en octobre en France, parce que l'école à l'époque, on rentrait au mois d'octobre. Et en décembre, je savais parler, hein, parce que pour me défendre. Mais la scolarité était difficile, parce que comme j'étais grande, on m'a d'abord mis avec les tout petits, on ne m'a pas laissé en CE1, on m'a mis en CE2. Je crois que dans la même année, j'ai dû faire 3 divisions, CP, CE1, CE2. Mais sans acquisition de français en profondeur, puisque je n'avais pas appris à lire, j'avais pas. J'ai tout. Comme ça, saisi, j'ai beaucoup photographié, j'allais dire avec mes yeux, parce que j'ai une mémoire visuelle encore maintenant, parce que je comprenais pas, mais j'apprenais. Donc je traduisais quand on avait des écrits, je traduisais ce que j'avais vu dans les livres sans aucune compréhension. Donc je me rappelle d'une interro de géographie, je vois encore la page de géographie à droite en haut, que j'ai répété textuellement parce que bah, j'ai photographié, quoi. Donc ça a été très très difficile. J'ai voulu quitter l'école très tôt. Quand je suis arrivée en sixième, je dis bah, non, je vais pas apprendre l'anglais que je connais déjà pas tout à fait le français. Ça m'a fait abandonner l'école totalement à l'issue de ma mère. Je vais pas dire maman. Un matin, elle me réveille pour l'école. Je dis non, c'était un vendredi et le jeudi, j'étais pas loin de Paris. J'avais demandé de l'argent à ma sœur aînée. J'étais allée à Paris pour trouver du travail. Et j'ai trouvé dans l'heure qui a suivi mon arrivée à Paris, je suis allée dans J'ai frappé dans une communauté religieuse, je n'avais pas une famille qui avait besoin d'une bonne à tout faire. Donc je suis allée et le lendemain j'ai commencé à travailler. J'y suis restée pas très longtemps. Après j'ai fait plein de travaux, usines, tout le truc. Après j'ai pris des cours par correspondance pour rattraper mon français et ma culture française. Et voilà, je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, avec plein de bonnes rencontres, plein de gens qui m'ont aidée dans mon développement au niveau de mon intégration au niveau de la France, quoi.
On va revenir en arrière.
Oui, vas-y.
Pourquoi est-ce que ta maman a décidé de revenir en France du coup? Et avec combien d'enfants elle est
Alors,
repartie à ce
elle a
moment-là?
décidé, elle n'a pas décidé toute seule, parce qu'au fur et à mesure, ben, je vous ai dit qu'il y en a deux qui étaient restés en France, un frère et une sœur, et au fur et à mesure que mes frères et sœurs se mariaient, venaient en France, parce qu'il y avait du travail. Là où on habitait, comme je disais, petit à petit, tout a fermé, elles avaient plus, mes sœurs n'avaient plus de travail. Donc ma sœur, là, de trois, la Rosette. Elle est venue quand elle s'est mariée en France. Elle était très attachée à maman et à nous, parce qu'elle nous a élevés. Hein. Moi, c'était ma deuxième maman. Après, mon oncle avait un atelier de menuiserie à Paris, donc mes deux autres frères sont revenus. Oui, Bruno et Aldo sont venus en France pour travailler chez mon oncle. Donc, il y en avait plus qui étaient en France, presque, qui étaient en Italie. On n'était plus que René, Gilbert, Marie et moi, on n'était plus que quatre, et Jacques, cinq. Cinq à être en Italie, et mes frères et sœurs, et dont ma sœur Rosette, que sa mère lui manquait, elle lui a dit, mais venez en France, viens en France, viens en France, jusqu'au jour où maman a cédé de revenir en France avec nous cinq. Mais moi, j'avais 10 ans, mais comme on a beaucoup de différences, donc il y a deux qui sont décédés entre moi et mon frère qui me suivait, donc ça faisait 6 ans. Moi, j'avais 10 ans, le premier avait 15 ans. Moi, je ne connais pas exactement, mais je vais de 18 mois à 2 mois à 2 ans chez mes frères et sœurs, c'est comme ça, je connais l'âge, mais on ne fêtait pas les anniversaires. Alors, je ne connais pas exactement, à part 2 ou 3 après où on a commencé à fêter les anniversaires, je ne connaissais pas les dates de naissance. Donc, voilà, moi, je suis allée à l'école. Mon frère est allé en apprentissage mécanicien, celui qui m'a suivi. René, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait n'importe où, ce qui se présentait. Jacques, lui, il était électricien, il a continué à être électricien. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? Marie a travaillé à l'usine, voilà, dans une usine de chaussettes où elle, voilà. Donc, voilà notre. Et on habitait en région parisienne, à Savigny-sur-Orge.
Elle avait trouvé un logement facilement,
Maman,
comment?
elle a acheté une maison.
D'accord.
Avec l'aide de son frère qui était déjà en France,
ouais.
Elle a acheté une maison. Toute, je ne sais pas comment elle a fait pour faire des économies, parce que ses petites économies, avec mon oncle qui l'a aidé, on habitait donc à Savigny dans un pavillon.
D'accord.
Voilà.
Et tu te souviens des premières images en arrivant là-bas ?
Alors, moi, des premières images, je me souviens de cette maison. On avait un jardin, c'était bien. Alors après l'école, c'était difficile parce que maman, qui était catholique, a voulu me mettre dans une école privée qui était à Viry. Donc ça faisait bien 4-5 km à faire le matin et le soir. Donc j'allais à vélo, mais je descendais la Nationale 7. Donc c'était très dangereux. Je descendais sur la piste cyclable, c'était un trottoir. Et c'est comme ça que j'ai avec toutes les difficultés que je vous disais de l'école, c'était pas très facile. Sinon, l'environnement... on avait un café en face de chez nous, des voisins, je ne me rappelle pas trop. Voilà. Il ne fallait pas parler parce qu'on parlait très fort, donc on nous faisait toujours parler doucement, parce que voilà, parce qu'en Italie, on a l'habitude de parler dehors, donc on a un verbe très haut. Donc ça, petit à petit. Et puis, on a fait la guerre à maman, c'est ce que je me rappelle tout le temps, de parler en français, parce qu'elle voulait toujours parler italien. Donc nous, on lui répondait en français. On lui disait, non, il faut que tu apprennes le français. Donc on te parle en français.
À la maison.
À la maison aussi, oui, on ne voulait pas. Contrairement à ce qu'on fait maintenant, que j'observe aussi bien chez les Portugais, là, on a des amis moldaves qui sont à côté. On a d'autres amis... voilà, qui continue à parler, même en présence de nous. Enfin, par exemple, nous, on n'a jamais fait ça. Oh là là, on ne se serait pas permis de parler italien en présence de quelqu'un, même dans la maison, parce qu'à un moment, on l'a obligée à parler. Alors, la pauvre, elle a essayé, mais du coup, elle parlait français, italien, elle ne savait plus trop. En Italie, elle parlait français, en France, elle parlait un peu italien. Enfin, elle s'est débrouillée, elle s'est toujours fait comprendre. Voilà.
Et il y avait une communauté italienne,
hein? Oui, à l'époque, il y avait une communauté italienne au niveau de l'église. Donc on avait ce qu'on appelait les missions, 3 ou 4 jours par an, un missionnaire italien qui venait, qui réunissait tous les fidèles qui voulaient. Sinon, en dehors de l'église, non, on n'avait pas une communauté, on ne se retrouvait pas entre Italiens. Mais nous, on était assez nombreux en famille, donc le dimanche...
Mais je veux dire, à l'école, par exemple, vous n'étiez pas la seule.
J'étais la seule.
Ah, si.
Il y a une Anglaise qui est arrivée et qu'on m'a mis avec moi, alors comme si on allait se comprendre, elle me rappelle toujours... Je vois encore le bureau, on avait des bureaux à deux, là, et cette pauvre petite, là, qui était comme moi perdue, et qu'on ne se comprenait pas plus, et voilà. Non, non, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'autres, en 50, hein, il n'y avait pas d'autres Italiens qui étaient dans mon école. Peut-être dans le public, mais là, moi, j'étais dans le privé, et non, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Et là, j'avais mes neveux, mais voilà, c'est tout.
Et comment est-ce que vous avez été accueillis par les enfants, du coup
Eh ben, très mal, très mal, parce qu'ils avaient dû entendre par leurs parents, donc ils transmettaient ce qu'ils avaient entendu, le sale macaroni dans ton pays. Et ça, j'ai vraiment très, très mal.
C'était compliqué de se faire des amis?
Oui, j'ai aucune amie. Peut-être après, je suis restée 3 ans, peut-être la dernière année, mais oui, c'est vrai, parce que j'avais été invitée à un anniversaire et j'ai dû faire des pieds et des mains pour que maman me laisse y aller, parce qu'on n'avait jamais le droit de sortir de la maison si on n'était pas accompagné. Maman, tant qu'on était... on ne se mariait pas, on ne partait pas de la maison, qu'on ait 20 ans, 30 ans... on restait dans la maison. Mm-hmm. Un jour, mon frère a voulu, parce qu'il avait des copains, et il a voulu faire comme les copains, il arrivait un soir à la maison en disant, maman, écoute, je vais te payer une pension, et puis je garde ma paye, parce que nous, on donnait tous nos revenus, on les donnait à maman. Elle dit, écoute, je sais plus quel âge il avait, 18, 20 ans. Elle dit, bah, jusqu'à 20 ans, je t'ai élevé, je t'ai donné à manger, je t'ai habillé. Bah, écoute, si tu veux partir, tu prends une pension de famille, mais moi, je ne fais pas de pension de famille. Et c'est pareil, la gère m'a reposé la question. C'était une culture, c'était comme ça. C'est... Le clan familial, tant qu'il y a eu maman, c'était très important. Tout le dimanche, tout le monde venait manger à la maison. Et puis, jouer aux cartes l'après-midi. Enfin, voilà. Les frères, les beaux-frères, les belles-sœurs, hein, tout le monde venait, quoi, ceux qui pouvaient. C'est cette attache familiale qui s'est perdue depuis, hein, parce qu'on en reparlait. Depuis que maman est décédée, chacun a fait sa petite famille. Et on se connaît plus, même entre cousins proches, quoi. Les neveux, mes neveux et mes enfants, par exemple, ils ne connaissent pas tous leurs cousins. Non, non. Ce n'est plus ce clan familial qu'on avait vécu. Non, ça a été dispersé.
Et les Français, à l'époque, ne vivaient pas comme ça. Il n'y avait pas cet esprit de
famille. Je ne sentais pas. C'était beaucoup plus libéral. Déjà, les filles, à l'école, elles se recevaient entre elles que nous, on avait le droit d'aller chez les autres. Je dis, pour un anniversaire, j'ai dû faire des pieds et des mains. On ne sortait jamais. Les samedis et le dimanche, on sortait pas, on était à la maison. Pour aller au cinéma, C'était, il fallait accompagner mon frère. C'était, on sortait pas. Les filles, c'était, les garçons faisaient ce qu'ils voulaient. À partir du vendredi soir, mes frères sont toujours allés au bal, ils sont allés au cinéma, ils rentraient à n'importe quelle heure. Maman, elle acceptait tout des garçons. Et nous, on était les bonnes des garçons parce qu'il fallait cirer les chaussures, repasser les chemises, malgré qu'on travaillait aussi. Et on n'avait pas le droit de sortir. C'était au niveau éducation, c'était très serré pour les filles. Puis maman, étant toute seule, elle avait peur quand même que s'il nous arrive quoi que ce soit, elle nous protégeait. C'est une manière de protection. Nous, on le vivait très mal à l'époque, mais c'est une manière de protection. Moi, j'étais plus docile que ma sœur Marie qui était encore à la maison. Elle, s'il fallait passer par la fenêtre, elle passait par la fenêtre pour s'en aller. Mais vous voyez, je vous donne un exemple fort exprès. Elle a toujours fait du forcing pour pouvoir sortir, quoi. Parce qu'elle était en âge, je crois qu'elle a dû se marier, elle a 23, 24 ans, donc elle était en âge de... Mais on avait beau être majeur, pour le moment, on n'était pas majeur. C'était comme ça.
Donc vous êtes restée jusqu'à quel âge ?
Moi, je suis partie de la maison, je devais avoir 22 ans, 22, 23 ans, parce que j'avais à trouver un travail plus loin, donc j'étais obligée de partir. Et puis, mais je revenais régulièrement, c'est ce que je disais. Moi, je n'ai jamais passé un week-end pour moi. Dès que j'avais un week-end de libre, j'étais éducatrice, je revenais pour maman et j'étais dans le Jura. Donc je voyageais la nuit pour être là le week-end et je repartais, je travaillais. J'avais un week-end prolongé toutes les 3 semaines, c'est-à-dire qu'on avait samedi, dimanche, lundi. Lundi, on reprenait à 5 heures. Donc là, je pouvais me permettre de faire le voyage, je faisais de l'internat, donc je finissais à 9 heures, je me couchais jusqu'à 2 heures du matin, je partais, j'arrivais à 7 heures, j'avais une dodoche, donc j'arrivais à 7 heures. À Paris-Châtillon. Mais voilà, je disais à un moment, tu te laisses la clé à tel endroit, tu t'occupes pas, parce que sinon ça faisait du souci, tu t'occupes pas, et puis voilà, me retrouvais. Et puis le lundi, je partais de bonne heure pour arriver, pour commencer mon travail à 5 heures. Mais voilà, ça a été. Jamais j'aurais dit, je prends un week-end pour aller me promener, faire des marches avec mes copines, mes copains de boulot ou quoi. Non, non, c'était réservé. Fallait que je vienne voir maman, qu'on lui subvenir. Elle est morte jeune, hein, mais elle était usée, à 76 ans. Et moi, j'ai perdu maman, j'avais 36 ans. Donc, comme je disais à mes frères et sœurs, vous en avez profité. Moi, j'en ai pas beaucoup profité parce qu'elle est morte ou j'aurais eu besoin d'elle un peu plus, quoi. Voilà.
Et tu es devenue éducatrice. Du coup, tu as dit que tu avais fait différents métiers.
Voilà, je faisais beaucoup de colonies de vacances, de camps. Et puis au cours d'un camp, j'ai rencontré un éducateur qui était de Saint-Claude et qui faisait lui un camp parallèle au nôtre, on n'était pas loin, en Vendée. Et puis en discutant comme ça, il me dit, moi j'aimerais bien. Mais il me dit, moi dans mon IME, on embauche. Je dis, ah oui, d'accord. Donc je dis, pourquoi pas. Et puis j'ai pris le train, je suis arrivée à Saint-Claude. Et puis, je me suis présentée. Et puis, le directeur m'a dit... J'avais jamais... Je m'occupais d'enfants, mais dans la catéchèse spécialisée. J'ai toujours été donc catéchiste. Au niveau de la foi, je suis toujours catholique, j'ai toujours pratiqué, j'ai toujours fait... Donc. Et je travaillais avec une religieuse qui prenait un groupe d'handicapés le samedi. Et c'est comme ça que j'ai connu le monde de l'handicap. Et donc... Ce monsieur m'a dit, écoute, viens. Donc, le directeur m'a reçu, il m'a dit, écoutez, oui, je vous confie le groupe des petits. Soyez sûr, c'est pas le plus facile. Donc, j'avais les 5 ans, 5-8 ans, avec beaucoup d'autistes, enfin bref. Et puis, il me dit, quand est-ce que vous voulez commencer? Je dis, quand vous voulez. Demain, si vous voulez. Alors, j'avais ma petite valise, j'ai profité du week-end d'après pour repartir. Et j'ai trouvé un logement par ce monsieur, toujours à Saint-Claude, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que c'est Saint-Claude. J'étais dans les hauteurs, je voyais que des toits, c'était triste. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai toujours continué.
Voilà. Oui, et puis tu vivais seule, alors que tu avais toujours vécu en famille aussi.
Je vivais seule, en plus, je vivais seule. Donc je retournais dès que je pouvais. Mais ça a été une période pas facile. Mais après, j'ai rencontré mon mari, j'avais 37 ans. L'année d'après la mort de maman.
Dans le Jura?
Oui, c'était dans l'Ain, mais c'était limitrophe. Moi, j'habite dans le Jura et l'établissement, j'avais changé à l'époque, c'était dans l'Ain. Parce que comme j'avais pas de diplôme, à un moment donné, les syndicats ont fait pression sur l'établissement, et le directeur m'avait appelé en me disant « Anne, je suis très contente de vous, mais j'ai les syndicats sur le dos, j'étais AMP à l'époque, si vous faites la formation d'éducateur, moniteur-éducateur, ça sera bon, mais si vous ne la faites pas, je suis obligée de me séparer de vous. » Et à l'époque, s'ouvraient les centres pour adultes handicapés. Et là, ils n'exigeaient pas encore de diplôme. Donc c'est comme ça que je suis passée des enfants aux adultes handicapés. Toujours en internat.
Est-ce qu'ils n'ont pas considéré l'expérience des gens qui travaillaient depuis des années quand ils ont mis ça en place?
Alors j'ai fait l'examen.
La validation des actes.
Non, à l'époque ça n'existait pas. Oui. Mais j'ai fait l'entrée à l'école de moniteur-éducateur que j'ai raté, bien sûr, parce que vu mon français, voilà, c'est toujours ce qui m'a peiné toute ma vie. Et je suis restée complexée toute ma vie. Même maintenant que ma fille me dit « Mais non, maman, tu ne fais pas trop de fautes, il y a des bacheliers qui en font plus que toi. » Moi, devant une feuille de papier, je suis bloquée. Hein. Autant je veux parler, autant devant une feuille de papier, j'ai trop de mauvais souvenirs. Parce qu'à l'époque, c'était la loi en orthographe. On faisait 5 fautes, c'était 0. Et les verbes comptaient pour 2. Alors, dans une unité d'une page, c'était pas possible de faire moins de 5 fautes. Hein. Les accents, je crois que ça comptait 1, les verbes comptaient 2, donc le mot d'usage, les doubles, en Italie, il n'y a pas souvent des doubles lettres, les T, les L, alors des fois j'en mettais, il n'en fallait pas, enfin des fois j'en mettais pas, il en fallait, c'était très compliqué, enfin j'avais toujours, malgré que je m'appliquais le plus du monde, j'avais toujours plus de 5 fautes. Et ça m'a découragée pour la vie. Hein. Maintenant, c'est plus comme ça, mes enfants n'ont pas eu cette... Eux, ils n'ont jamais fait de faute, ils ont toujours été très bons à l'école, donc ça va, j'ai eu de la chance. Puis j'étais très bonne en maths, c'est toujours ce qui m'a fait changer, qui me faisait changer de classe, parce que j'étais toujours le meilleur en maths, donc je me rappelle à l'examen, parce que comme j'étais dans le privé, il fallait un examen pour passer en sixième, et l'examen de sixième, dans la cour, on faisait les résultats de ce qu'on avait fait, personne ne trouvait comme moi, oh bah cette fois-ci j'ai faux. Ben, j'ai eu 70 sur 70, j'étais la seule, bon, mais je ne suis pas passée parce que j'avais un zéro en orthographe. Toujours l'orthographe. En tout ce qui se apprenait la géographie, l'histoire, j'apprenais par cœur, donc je pouvais. Mais là, le grand défaut, c'était... Alors, quand il fallait faire une étude de texte, des trucs comme ça, c'était... Et puis la difficulté aussi, c'est que dans ma famille, dans notre culture, la lecture, c'était perdre son temps. Donc on n'avait jamais de livre à la maison. Ma sœur, qui, elle, aimait lire, elle se cachait pour lire, on l'extirpait, je sais pas, elle achetait des machins en cachette, elle se mettait dans les WC pour lire, mais lire, c'était perdre son temps, donc on ne lisait pas. Donc, c'était très... À part les livres d'école, ça, j'étais encouragée, mais que des livres d'école, et j'étais vraiment... On n'avait rien, on n'avait pas d'encyclopédie, on n'avait pas de livres de bibliothèque, on n'avait rien. Donc, c'était très difficile. Donc, voilà. Mais ça n'a pas empêché de vivre une vie, non, ça m'a jamais été un barrage après dans ma vie.
Bon, on en était resté à ta rencontre avec ton mari.
Donc mon mari, je l'ai rencontré dans le centre que j'ai travaillé à côté de Bourg-en-Bresse, Saint-Césarien. C'était un centre nouveau qui ouvrait pour les adultes. Donc voilà, on faisait l'internat, on commençait à 5h l'après-midi jusqu'à 9-10h le soir. Et 7h le matin jusqu'à 9h, 9h30. Voilà. Et puis les week-ends, un week-end sur deux, à l'époque. Donc, on a eu un enfant très vite, parce que moi, j'avais quand même 38 ans. Donc, je voulais au moins deux enfants, je ne voulais pas un enfant unique. Donc, on a eu tout de suite l'année d'un... On s'est mariés un 3 janvier. Vous voyez, c'est pas ordinaire. Mais donc, Jérémy est né au mois de septembre. Et puis, 16 mois après, j'ai eu ma fille, Lucille, et voilà. Donc moi, j'ai arrêté de travailler, parce que les heures d'internat, on habitait un village en plus, trouver une nourrice et tout ça, les nuits, les week-ends, j'ai dit non, j'ai élevé toute ma vie les enfants des autres, j'élève les miens. Donc j'ai arrêté de travailler, mon mari a continué, et voilà, donc notre vie a continué comme ça.
Et lui était de culture française d'origine?
Oui, oui, oui. Lui, il habite à Romans. Il était de Romans. Et donc, oui, lui, il était de culture française depuis toujours.
Bon, et comment est-ce que vous êtes arrivé dans le Tivoir?
Ah ben, par mon mari, parce que il faisait du canoë. Et puis, les premières vacances où on a pu partir avec les enfants petits, il dit, oh, je vais t'emmener dans la Drôme, là où je faisais du canoë, c'est bien, tatati, tatata. Bon, ben on est venu, on était à Boulk, on avait trouvé un gîte à Boulk, et puis on faisait les environs, tout ça. Puis Moi, le matin, je restais plus dedans parce que les enfants étaient encore petits. Puis lui, il allait se promener. Puis il revient en me disant oh, « J'ai trouvé une maison, ce serait bien qu'on aille la voir, tout ça, amener. » Une bâtisse énorme. Il n'a pas eu de cesse tant qu'on n'ait pas acheté cette maison. Donc on est retourné à Chartres, on habitait à Chartres à l'époque. Et on est revenu pour signer le compromis, acheter cette maison. Voilà, je ne vous dis pas parce que c'était un monument. Et elle existe toujours, maintenant ça fait un gîte. Et c'était un monument, cette maison, ce qu'on y a fait comme travaux là-dedans. Il n'y avait même pas d'eau courante. Donc on a dû mettre, il n'y avait pas de WC, c'était dehors, enfin tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc,
en quelle année
Alors on est arrivé 80. Quand est-ce qu'on est arrivé? Jérémy avait. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Jérémy avait. Il avait fait sa sixième, il était en avance, donc il devait avoir. Il arrive ici en cinquième. Il avait dit 11 ans en cinquième. Oui, donc il est de 76. 76, 86, 87, on a dû arriver ici.
D'accord.
Voilà.
Il y avait beaucoup d'habitants à Menay ?
Non. On a doublé la population. Parce qu'on a fait de l'accueil. Oui, on est venu avec un travail quand même. On n'est pas venu sans rien. On avait acheté la maison. On est venu 2 ans en vacances. Mais après, on a dit, c'est pas la peine d'avoir une grande maison comme ça. Et donc, on a contacté par des amis une association qui faisait du placement de personnes handicapées adultes à domicile. Donc on a fait ça. On a eu 2 personnes, après 3 personnes à domicile. Et moi j'ai trouvé que c'était très dur avec des enfants qui arrivent à l'adolescence, avec plein de problèmes. Et puis moi j'en ai eu marre. À un moment donné, je dis à Jean-Claude, tu continues si tu veux, mais moi je vais faire autre chose.
Vous n'aviez pas de relais en fait du tout.
Non. Et puis à l'époque, j'ai contacté. On allait ramasser les noix, on allait faire les vendanges avec les personnes handicapées. Et puis c'était le maire de Châtillon à l'époque, Monsieur Ressé. Et puis je lui ai dit, là, mon problème, j'ai dit, écoute, moi j'ai pas du tout envie de continuer. Mais il me dit, bah écoute, il y a un Luga, donc un petit magasin, une petite épicerie dans le haut de Châtillon, là, dans le vieux Châtillon. Ils veulent plus de gérants, ils veulent vendre, donc on reçoit des gens. Donc, je ne sais plus quel jour c'était, donc je suis allée. Puis après, il m'a dit, bah, si tu veux, c'est toi qui as été retenu. Moi, je n'avais pas le premier sou pour prendre ça. Enfin, après, j'ai été aidée comme maintenant on aide. Là. Et puis la banque qui m'a dit, on vous prête, mais aucun découvert autorisé. Bon, prendre un truc, enfin, je l'ai pris. Moi, je suis très débrouillard. Donc, j'ai pris ce magasin, mais il y avait un autre magasin plus important dans la rue principale en bas. Donc, moi, je faisais vraiment que du dépannage. Pour donner exemple, je le donne souvent. Des gens qui allaient à Intermarché, qui avaient oublié 3 oignons, qui venaient acheter 3 oignons chez moi, avec des voitures pleines. Mais je les comprends en même temps, parce que c'était très cher. Moi, des fois, je vendais des choses plus chères que eux, ce qu'ils achetaient. J'achetais des choses plus chères que eux, ce qu'ils achetaient. Donc, je ne pouvais pas les vendre le prix que je les achetais. Il fallait bien que j'aie un petit bénéfice.
Et vous n'êtes plus à Menay ?
On a essayé de tout faire pour s'intégrer. Avec les personnes handicapées, on entretenait le village, les monuments, par exemple, on a repeint, on rendait des services aux gens, par exemple, pour casser des noix. On a tout fait pour s'intégrer, mais je pense qu'il y a une jalousie qui s'est développée à notre rencontre, parce que nous, on a su trouver et s'intégrer dans le village qu'eux, ils ont dû partir pour travailler à Grenoble ou à Lyon, parce qu'ils n'avaient pas travaillé sur place, que nous, on avait notre travail et que... Voilà, on avait l'air heureux, et on a eu plein de problèmes. Mais la vie des villages est très difficile. La vie des villages, certains, moi je connais que celui que j'ai pratiqué, hein, c'est très très difficile de se faire accepter dans les villages. On est toujours des étrangers. Moi un jour, j'ai dit, mais mon mari n'est pas un étranger, puisqu'il est drômois. Il fait partie de la Drôme, il est drômois, il est drômois. Hein. Que moi vous me disiez que je suis étrangère, mais lui il est drômois. Hein. Donc, tu vois, on est toujours des étrangers. Je te dis, nous, on a tout fait pour s'intégrer à Menay. Dieu sait, il n'y a personne d'autre qui a fait autant qu'on a fait, hein, je pense. On a tout fait avec les personnes, mais on a toujours été vu comme... Non, on n'est pas du village. Et une fois, j'ai été pressentie pour les élections, il y avait quelqu'un du village qui a eu moins de voix que moi là, au premier tour. J'ai dit, non, je lui laisse. Hein. Je n'ai pas d'animosité, je lui laisse la place. Moi, je ne me bats pas pour avoir la place. C'est vous qui m'avez demandé de me présenter, mais moi, je ne me bats pas, je lui laisse la place. Il faut vivre dans les villes. Moi, j'ai vécu à Menay. Hein, faut vivre dans le village pour se rendre compte de tes. Et puis, Tréchenu, c'était 3 villages, enfin 4 hameaux. Mais d'un hameau à l'autre, il y a des différences et des animosités qui sont ancestrales. Le petit-fils va pas parler à un tel parce que le grand-père ou l'arrière-grand-père avait eu des mots avec. Mais ça dure des générations en générations. Qu'est-ce qu'il y a, le petit-fils, il a envie d'être copain avec. Il peut pas. Dans les villages, il y a une animosité entre les villages.
Et Adi, du coup, t'as senti plus d'ouverture en arrivant ici?
Oh oui, oui. Non, moi, j'ai jamais eu personne qui m'a dit non, non. Non, moi, j'ai eu beaucoup d'activités, même quand j'étais amenée sur 10. Amenée, on ne pouvait pas avoir. C'est pour ça que j'ai déménagé, parce que si tu veux, si j'étais encore amenée maintenant, je serais enfermée dans ma maison, je ne ferais rien. Je ne ferais pas les 20 km, je ne ferais pas l'effort de faire les 20 km pour venir à des réunions ou des informations à 10. Non, je laisserais tout tomber. Moi, j'ai eu beaucoup d'activités, déjà quand j'étais amenée sur 10, ne serait-ce que par la catéchèse, après dans les associations, voilà. Quand on est plus jeune, on fait les kilomètres après. Non. Toutes les fois que mon fils a raté le car et qu'il a fallu que je descende pour le chercher, et qu'il m'a dit il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, tu sais, maman, je faisais exprès de rater le car, parce que si j'avais des copains à mener, j'avais pas de copains. Là aussi, c'était notre choix, c'est pas le choix des enfants. C'est pour ça que, voilà, il faut faire, quand on fait des choix, il faut intégrer vraiment. Ils étaient d'accord, les enfants, mais comme ils nous ont dit, mais nous, on était petits, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait la nature pour nous, mais on n'a pas vu tous les autres inconvénients que nous, adultes, bien sûr, on pouvait voir. C'est plus difficile.
Et je voulais qu'on aborde aussi ton investissement dans le Raidar et la naissance du Raidar, les motivations
Alors,
qu'il y a eu à ce moment-là.
la motivation première, moi, quand j'ai entendu qu'il y avait cette réunion publique, je ne me suis même pas posé la question, ça allait de soi que j'y aille, quoi. Et je me suis engagée le soir même, on a fait des commissions, je me suis mise dans une commission.
Quel était le projet initial?
Alors, le projet initial, c'était d'accueillir une famille. On a fait une association tout de suite. Avec les statuts. Et dans les statuts, on avait mis que nous, on n'accueille que des personnes qui sont en règle avec la loi française, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, quand ils viennent, ils peuvent obtenir leurs papiers, parce qu'on a des liens avec les consulats dans lesquels ils viennent. Donc, la première assemblée générale officielle, il y a eu une des filles de la famille qui était à Luc, Rada, qui est venue avec l'association qui est venue et qui a dit, ben moi j'ai mes parents qui aimeraient bien venir. Et c'est comme ça qu'on a fait les démarches avec le consulat d'Erbil pour que la famille Roto vienne. Et c'est comme ça qu'on a accueilli la première famille. Donc ils étaient sept enfants, les parents.
D'accord, donc c'est la sœur aînée, enfin une des
Une
filles qui
sœur
était
aînée qui
déjà.
était déjà donc à Cré depuis au moins 2 ans. Et qui a voulu que ses parents viennent. Et après, elle a fait venir aussi son frère, qui était aussi un cré. Voilà. Moi, je suis très contente des Toreda, même si je fais pas grand, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose. Mais au moins, j'apporte le point de vue d'une ancienne émigrée, où je retrouve plein de similitudes. Que je pense le français lambda n'a pas. Vous n'avez pas cette expérience. Parce que peut-être que vous n'avez pas vécu ces choses-là, vous n'avez pas cette expérience de culture. Que nous, on s'as. Je ne sais pas pourquoi, pourtant on est très loin de tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je ressens plein de choses. La preuve, de ne pas laisser partir les jeunes, de pas que les filles sont protégées par rapport à la famille. Moi, j'aurais jamais. Oui, sans l'appui de mes frères, j'aurais jamais tout. Je ne sais pas danser parce que j'ai jamais le droit d'aller au bal. Parce que les filles ne vont pas au bal en Italie. On ne va pas à la piscine, donc je ne sais pas nager. Plein de. Voilà. La seule fois où je suis allée au bal, c'est avec une vraie copine et que maman me laissait aller. Il fallait que je rentre à 5 h du soir, le dimanche. Hein. Mais Françoise me rappelle toujours. Et elle m'a dit, oh, ben, on va aller là. J'habitais en région parisienne, donc il y a des petites guinguettes. On va aller là, parce que mon frère, il fréquentait tous les bals. Il me dit, non, non, Gilbert, il ne viendra pas là. On s'installe dans un truc qui était bien. Hein. On prend un Orangina, je me vois encore comme c'était aujourd'hui, je devais avoir 16-17 ans. L'Orangina coulait, je vois la porte s'ouvrir, qui c'est que je vois arriver mon frère. Il dit à Françoise, tu sais ce qu'il nous reste à faire, c'est de partir. Et il est arrivé vraiment, il dit, qu'est-ce que tu fais la frangine? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Je suis partie. L'incendie des frères sur les sœurs, c'était terrible. Et il avait quoi, 6 ans de plus que moi, hein? C'est comme ça. Et là, ils vivent la même chose.
Donc tu vois des similitudes entre la façon dont en Italie on
Ah oui.
éduquait les filles et la façon
Ah oui, tout à fait.
dont les Irakiens
Tout à fait.
élèvent leurs filles.
Hein. Et la religion a un grand poids aussi. Eux, ils ont bien dit. Hein. C'est Cham qui a dit, chrétiens et nous, c'est presque pareil. Donc, il tient beaucoup à la religion. Eux, ils n'ont pas une religion écrite, c'est que orale. Je sais que Radha nous avait dit, il prie tous les jours. Je pense que là aussi, hein, c'est très important. Et ils ne font pas n'importe quoi à cause de leur religion aussi, tu vois. Donc, nous, la religion a beaucoup pesé sur notre éducation. Maman était très catholique, pratiquante, voilà. Donc, là, elle a pesé. Je pense que sur eux, elle pèse aussi. Il y a le poids de la religion et de la culture. Et je retrouve plein de choses.
Mmh. Et il y a l'endogamie. Alors, est-ce que c'est à cause du sein, le fait de pouvoir se marier qu'avec des gens de la même
religion ?
Alors,
nous, on n'avait pas ça. D'accord. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça. Je ne sais pas dans les générations avant moi. Non, nous, non. Mes frères, sans le vouloir, Jacques, il s'est marié. Sans le vouloir, il s'est marié avec une Italienne. Mais c'est fortu parce qu'il a fait son service à Venise. Et il a connu une Vénitienne là-bas, mais bon, c'est comme ça, hein, il n'avait pas décidé. Ma sœur, ceux qui étaient venus en France étaient mariés en Italie, donc c'était forcément avec des Italiens. Mais même en France, ma sœur Marie s'est mariée avec un Italien. Je ne sais pas comment elle l'a rencontré. Mon frère Gilbert, qui était en France depuis des années, il allait en vacances en Italie. Il a dit, il aimait bien sortir avec les filles françaises, mais je ne me marierai pas avec une Française. Il a été chercher une Italienne. Il aurait mieux fait de ne pas le faire, mais bon, voilà, c'est son choix. Il n'y a que René qui s'est marié avec une Française, avec une Bretonne. Moi, j'ai dit jamais je me marierai avec un Italien, donc je ne me suis pas mariée jusqu'au jour. Non, parce que je ne voulais pas un Italien. Hein. Je sais trop ce que c'est macho, les hommes italiens. Non, j'aurais jamais. Non, j'ai vu mes frères, ça m'a suffi. Hein. Non. Mon frère Aldo, lui, s'est marié aussi avec une Française. Bah, très peu, hein. Et si mon frère Raymond, le premier, était en France, donc il était comme ébouché, il s'est marié avec une Française. Mais sinon, presque tous, mon frère Jacques, Bruno, Lina était mariée avec un Italien, Rosette était mariée avec un Italien, Marie était mariée avec un Italien, Gilbert avec une Italienne, et moi non. Et je ne regrette pas. Non.